Bonjour, quelle joie d'être parmi vous. Merci pour votre accueil. Effectivement, il fait un petit peu plus frais au Valais. Moi, j'habite juste avant le Valais, à Roche, à côté de Villeneuve, et puis juste avant Montet-Colombais. Alors voilà, je ne suis pas valaisan, mais je sais que vous m'aimez quand même. Voilà, en quelques mots, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Gaël Marty, j'ai 25 ans. J'aime pas vos rires moqueurs. De corps, mais mon de cœur, mais mon corps me dit que j'ai 48, marié à Salomé. Et puis je suis, on a aussi notre fils Gad, qui a 18 ans. Et puis Liam, donc notre fils aîné, qui est décédé il y a 5 ans, qui est auprès du Seigneur maintenant. Je suis pasteur depuis 16 ans à Vevey. Et puis je fais pas mal d'aumônerie à droite, à gauche. Quelqu'un m'a dit, ils t'ont sorti de prison. J'ai dit, mais je ne suis pas aumônier de prison, je suis à l'armée. Alors c'est peut-être alarmant, mais en tout cas, je suis aumônier militaire. Et puis aussi, j'interviens dans les groupes d'intervention d'urgence pour les annonces de décès avec la police. Voilà, je vais plutôt me focaliser sur le Seigneur, ce sera mieux. Alléluia. J'avais envie de donner ce titre au message ce matin, Constance et Vigilance, parce que notre vie chrétienne est faite de haut et de bas. Et c'est une réalité, même si je crois que notre amour pour le Seigneur est appelé à être dans la durée. Amen. J'avais une sœur qui s'est convertie de manière assez impressionnante. Elle est venue à l'église un dimanche. Elle promenait son chien et puis régulièrement, et puis quelqu'un de l'église promenait aussi son chien. C'est peut-être une révélation pour certains de se dire j'achète un chien, mais et puis elle l'invite, elle voit qu'elle va pas très bien cette dame déjà un certain âge, et puis cette dame vient à l'église et puis on prêche l'évangile et puis à la fin elle demande la prière. Et puis je vais vers elle, puis elle me dit, mais j'aimerais que vous priez pour ma petite fille, voilà, au niveau relationnel. Puis je veux bien prier pour vous. Puis dans la prière, je dis, mais je crois que le Seigneur vous veut aussi. J'ai envie de prier pour vous. Et cette personne s'est donnée au Seigneur de manière juste glorieuse. On est allé chez elle, chez cette personne, il y avait plein de livres ésotériques, de choses diverses et variées. On a rempli, elle a dit, je veux vraiment tout me débarrasser. Donc, on avait des espèces d'idoles, je ne vous dis pas comment. J'ai dit, si j'ai un accident, puis qu'on dit que c'est le pasteur où il y a toutes les idoles qui partent du coffre. et c'était juste glorieux. Et puis, un jour, elle vient très découragée. Puis elle me dit, j'ai un frère et une sœur qui m'ont dit, t'inquiète pas, ta ferveur pour le Seigneur ne va pas durer. Je dis, ah, mais c'est terrible d'entendre ça, n'est-ce pas? Alors après, il y a aussi une certaine réalité où on est conscient que dans notre vie chrétienne, on peut avoir des moments de victoire, des moments voilà, qui sont des moments de catalysation, catalyseur, vous voyez ce que je veux dire? Puis des moments qui sont plus des moments de down. Mais la vigilance est de mise pour chacun, parce que les bas peuvent être un tremplin et une occasion de nous éloigner du Seigneur et à nous isoler. J'avais envie de prendre l'histoire de David, où on voit qu'il va y avoir des cascades dans sa vie et que les hauts vont faire place aux bas. Et la constance qu'il a eue jusqu'à présent va prendre du plomb dans l'aile et cela va sérieusement impacter sa vie. Je suis toujours étonné de l'histoire de David, parce qu'on voit que David a été tellement persévérant. Il a été oint par Samuel. C'était celui dont on pensait jamais qu'il serait roi d'Israël, qu'il n'avait pas la carrure, mais en fait, Dieu regardait son cœur. Parce que c'était un homme qui était fervent, qui aimait le Seigneur, qui prenait des temps de louange, qui prenait des temps d'adoration. Et quand je vois l'histoire de David, il a attendu à peu près 18 ans avant d'être roi, les amis. Et que de combats il a eu, que de découragement il a eu, mais il a tenu ferme et il est arrivé jusqu'à la royauté. Du reste, Jésus est descendant de David, donc on voit que David a eu une place importante et prépondérante aussi dans l'histoire d'Israël. Et j'avais envie de prendre ce passage qui est peu glorieux de David, mais qui est tellement enseignant pour nous aujourd'hui. Et je vous propose de prendre la parole de Dieu dans 2 Samuel, le chapitre 11, les versets 1 à 6. Je lis dans la Bible Second 21. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles, puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte, elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite ». Et Joab envoya Uri à David. Ensuite, on va un tout petit peu plus loin au verset 14 et 15, et nous lisons, « Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri ». Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. » Constance et vigilance. Et je vais prendre 2 points ce matin, de 2 heures chacun, pour voir si vous êtes persévérants. Et le premier point que j'aimerais prendre ensemble, c'est l'engrenage. Parce qu'on est loin des récits glorieux de David, où il prend autorité contre Goliath, qui s'oppose à Dieu. Et ce n'est pas pour rien que l'Écriture ne nous a pas caché cet épisode. Et je trouve très intéressant qu'on nous montre aussi les failles de ces hommes de Dieu, en fin de compte. Parce que, ce n'est pas pour excuser, mais c'est une réalité, nous restons des êtres humains. David n'a pas été constant toute sa vie, mais il aura l'humilité de revenir au Seigneur. Alors David, il va voir Bathsheba, qui est la fille d'Eliam et la petite fille d'Ahitophel, excusez-moi, ce n'est pas un prénom courant, le conseiller de David. Il faut dire qu'Eliam était un des vaillants hommes de David, certainement un mercenaire. Et David, dans un moment de oisiveté, de garde baissée, voit Bathsheba et il va la convoquer pour coucher avec elle. Alors, je sais qu'il y a des débats et je ne vais pas rentrer dans le débat ce matin en disant oui, qu'est-ce que Bathsheba faisait sur la terrasse, etc. Je vais vous dire quelque chose. Quand le roi convoque, t'obéis. Et je me demande si vraiment Bathsheba a eu le choix. Parce que quand David a convoqué Bathsheba pour coucher avec elle, c'est qu'il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Et moi, je pense que ça ressemblait plus à quelque chose de forcé qu'autre chose, mais c'est mon interprétation. L'abandon du combat de David du départ va l'emmener dans un engrenage et il va pécher en couchant avec une femme mariée. Et il ne va pas s'arrêter là parce qu'il va commencer à entrer dans un engrenage. Il va commencer à entrer dans une spirale. Et vu qu'elle tombe enceinte, il veut cacher son méfait en tuant le mari de Bathsheba. Comment est-ce que David a pu en arriver là? Il a juste commencé à avoir une femme. Il est allé plus loin, il la convoque, il couche avec elle. Mais il va encore plus loin, il va devenir un meurtrier pour cacher son méfait. Vous êtes avec moi? Ça va? On continue? Je vous donne un petit témoignage. Il y a quelque temps en arrière, je demande à mon fils de tondre le gazon. On a une assez grande surface. Et puis, moi, j'étais loin. Et puis, mon fils, tond le gazon. Et tout d'un coup, j'ai un téléphone qui sonne. Et je réponds, et j'entends la tondeuse derrière. Et mon fils, assez paniqué avec ma femme, en disant « mais on n'arrive plus à arrêter la tondeuse ». Et la tondeuse était en train de s'emballer comme une malade, excusez-moi du terme. Et ils essayaient de la secouer, d'aller dans tous les sens. Bon, si jamais ça vous arrive, vous enlevez la bougie, c'est plus simple. Et c'est vrai que je n'ai pas eu tout de suite, parce que dans l'effervescence du moment, cette tondeuse était en train de s'emballer. Il y a un engrenage qui s'est mis dans cette tondeuse. Et à un moment donné, j'ai entendu un immense boom. Et après ce boom, la tondeuse s'est arrêtée. Mais en fait, j'ai remarqué, quand je suis allé voir l'état de la tondeuse, j'ai retrouvé à côté de la voiture un bout de lame comme ça. Et si la lame avait touché ma femme ou mon fils ? Et on voit que David a vécu ce genre d'engrenage-là, où tout d'un coup son moteur s'est emballé, sa garde a été baissée, sa vigilance a diminué. Et on voit que ça l'a amené jusqu'au drame. Et l'Écriture nous met en garde. 1 Corinthiens 11, les versets 1 à 2, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction » à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et notre monde, les amis, part en sucette totale, part en décadence, et nous avons un rôle aussi à jouer en tant que chrétiens, à être constants et vigilants. Que celui qui est debout ne s'en vante pas, mais qu'il redouble de vigilance. Le Proverbe 24, 16 nous dit ceci. « En effet, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, tous, ils sont précipités dans le malheur. » Et j'aime cette parole parce qu'elle montre clairement, si le juste tombe cette fois, ce n'est pas juste, tu as le droit à cette chance. D'accord ? Ce n'est pas juste une comptabilité que tu fais du nombre de fois que tu pêches. Et puis en disant, au bout de la huitième, vous êtes le maillon faible, au revoir. J'ai envie de dire ceci, le juste tombe cette fois, c'est quelque chose d'infini, de répétitif. C'est comme pardonner. Combien ? 70 fois cette fois. Ou 77. Je crois que c'est 70. Et puis c'est par jour, si jamais. Mais vous voyez le... Exactement, l'engrenage. Le problème du méchant, c'est qu'il ne va pas se relever. Et qu'il n'aura pas la conscience de se relever. Alors que le juste va se lever. Il y a une autre voie, une autre issue. Ne pas fuir, ne pas nous retirer, ne pas rester à terre... Ben, à nous relever le danger et de ne pas le faire et de s'enfoncer de plus en plus dans le péché en cherchant toutes sortes de justifications personnelles. Mais si je suis en arrivé là, c'est à cause de ma vie. Si je suis en arrivé là, c'est parce que j'ai subi l'injustice. Et j'ai envie de dire, c'est une mauvaise voie. Parce que c'est une voie qui va commencer à justifier le péché dans notre vie. Et il est important de pouvoir être conscient de là où sont nos faiblesses, de là où sont nos combats, de là où sont nos difficultés, afin d'être vigilants et aussi de nous entourer. Il y a des engrenages dans lesquels nous pouvons être, où il nous semble que nous ne maîtrisons plus rien. Le danger du péché, c'est qu'il éteint gentiment notre flamme et notre constance pour le Seigneur. Il amorce un engrenage qui ne peut être arrêté que par le sang et la grâce de Jésus. Mais c'est possible. Alléluia. L'apôtre Paul a dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et nous allons prendre dans un moment le repas du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui. Il y a parfois un mal profond qui nous ronge. Mais le Seigneur est celui qui vient à la racine et celui qui est capable aussi de restaurer. Je ne minimise pas du tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, comprenez-moi bien. Je parle juste de ne pas justifier ce que nous faisons de mal, mais en étant clair. Je me demande quelle est était l'état d'esprit de David quand il est parti dans son engrenage. Lui qui était considéré comme un grand roi d'Israël, il a certainement dû se dire que son ministère était complètement fini, qu'il était à la ramasse et que si ça se savait, il serait mis au banc. Mais David a eu une grâce supplémentaire parce que l'Éternel ne laisse pas David dans son jus. Il envoie Nathan, le prophète, qui viendra le reprendre et lui montrer qu'il était sur une mauvaise voie, et il va utiliser le prophète Nathan pour qu'il y ait un déclic dans la vie de David. Et il y a des déclencheurs dans nos vies, et j'ai vraiment envie de nous encourager, c'est que le Seigneur provoque aussi des déclenchements dans nos vies pour qu'on se réveille, pour qu'on prenne conscience qu'il est là et que la liberté est possible en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Il fait un peu chaud, hein? Ça va, ok. Je vous raconte encore une petite histoire. J'aime bien les petites histoires. C'est une histoire vraie en plus. Je me souviens, il y avait à l'église, j'ai grandi dans l'église évangélique de réveil de Lausanne. Je suis tombé petit dans la potion. Qui a dit que ça se voyait? Et puis, on avait des personnes qui se sont converties aussi assez tard. Je pense qu'elles avaient la quarantaine. Et puis, voilà, c'était des personnes qui venaient de la rue, elles avaient vécu toutes sortes d'aventures. Du reste, j'aimais bien être avec ces gens-là parce qu'ils avaient toujours des histoires à raconter. Et puis, je me souviens de ce frère qui venait à l'église et qui était découragé. Il vivait vraiment des périodes de haut et de bas dans sa vie. Et puis, pendant le culte, il dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai tellement besoin, tu provoques un détonateur en moi, un déclencheur. Seigneur, je te demande de me secouer. » Il y a des prières dangereuses. Et puis le culte se passe. Et puis voilà, il sort comme ça, il voit le pasteur. Et le pasteur le prend par les épaules et le secoue comme un prunier. Elle lui dit, tu vas te secouer. Et il nous l'a partagé de manière très simple. Il a dit, mais ça m'a tellement fait du bien que le pasteur me secoue. Parce que je me suis dit, effectivement, il faut que je reprenne, il faut que je me relève, il faut que je continue, il faut que je persévère, et il faut que je trouve aussi la constance dans ma vie. David va avoir l'opportunité de confesser son péché, de demander pardon au Seigneur et de solliciter sa grâce. Alors les amis, soyons vigilants. Quand vous naviguez sur le lac, il y a des feux qui indiquent si une tempête risque d'arriver ou non. Quand vous regardez les nuages, vous êtes capable de dire si le temps va se gâter ou pas. Soyons attentifs à ce que nos yeux regardent et à ne pas nous engouffrer dans une spirale d'éloignement. Attention à l'engrenage. Et la deuxième des choses, c'est le retour au combat. Quand on voit l'histoire de David, il a été choisi par l'Éternel, il a été oint par Samuel et il a mené nombre de combats au nom de l'Éternel, pour le peuple d'Israël. Et à l'époque où les rois partent en campagne, il y a une coutume, à un moment donné, où David devait partir. C'était quelque chose qui était normal. C'était même écrit. Il y a une époque où les rois partaient en guerre. C'est comme ça que ça se fait. Mais David va envoyer quelqu'un d'autre. David va envoyer quelqu'un d'autre. Pourtant, le combat et mener les troupes faisait partie de l'appel de David. C'était un guerrier. Et ne veut pas aller où devrait être sa place, avec ses hommes, pour s'opposer aux ennemis d'Israël. Et on peut s'interroger pourquoi il ne part pas. Peut-être la lassitude, le découragement, l'usure, plus envie de se battre, envie de paresse en tuant le temps, alors que ses hommes se tuent au combat. David va rester au chaud, il va se retirer, il va s'isoler. Et cela va ouvrir la porte à un grave comportement, comme on l'a dit tout à l'heure, coucher avec Bathsheba et faire tuer son mari. Et une autre caractéristique intéressante, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais il nous a dit « un soir, David se leva de son lit ». Un soir, David se leva de son lit. Et je me demande si c'est le moment pour se lever le soir. Je suis content que vous vous soyez levé ce matin pour célébrer le Seigneur. Mais David se lève le soir. Alors, est-ce qu'il a vécu sa journée et puis qu'il s'est endormi? Moi, je crois que c'est un élément qui est assez significatif. David se lève le soir. Il passe certainement sa journée à dormir et le soir à vivre. Et l'Écriture va nous mettre en garde de la nuit. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 5. Et la nuit est le bon moment pour faire des choses cachées. Bon nombre de crimes se passent la nuit, dans la pénombre. Et une autre caractéristique, comme il se promenait sur le toit du palais royal. Et ce terme de promener dans l'Écriture pour David a toujours une connotation négative. Promener était quelque chose qui était mal vu. Alors on peut y voir une errance, une oisiveté. Et cela va amener David à chuter, à s'enfoncer dans son péché. Le moment de relâchement de David a permis d'autres sollicitations. Son attention a été accaparée, hypnotisée par autre chose. Il a convoité et a chuté. Il y a quelque chose qui a été dit dans la prière tout à l'heure. De lire la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a vraiment une clé, les amis, à lire la parole de Dieu. À écouter la voix de Dieu plutôt que d'écouter les bruits qui sont dans le monde. Prendre du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, pour rester connecté. Vous savez, on a parlé du feu où le péché peut éteindre notre flamme petit à petit. Mais ce qui va faire que ton feu dans le cœur et ta passion pour le Seigneur vont grandir, s'accroître, et devenir aussi à maturité, c'est ta vie de foi, ta vie de prière et ta lecture de la parole de Dieu. Alors j'aimerais dire, terminer, en disant qu'il y a des moments où tu es découragé des combats. Tu pries, mais tu ne vois pas les résultats escomptés. Tu es parti en campagne, en combat tant de fois que tu te sens une certaine lassitude. Tu es dans une frustration, un ras-le-bol général, une perte de sens de faire certaines choses, des déceptions. Mais c'est là que la vigilance est de mise. À ne pas s'endormir, à ne pas se retirer et s'isoler. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où nous sommes comme sonnés, groggy, comme dans un match de boxe, parce que nous avons été sursollicités. Mais l'enjeu est là. Reprendre conscience. Et commencer à se remettre en action, en prière, à entrevoir que le combat est possible, parce que le Seigneur combat avec nous, mais aussi pour nous. Quand David partait au combat, c'était toujours sur l'impulsion et la direction du Seigneur. Et que nous ne savons pas dans quelle direction prier, Romains 8, 26 nous dit ceci. L'Esprit de Dieu nous vient en aide dans notre faiblesse, et lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous, les amis. Et la faiblesse dont il est parlé dans ce verset vient d'asthénéia, le même mot asthénie, qui, vous savez ce que ça veut dire, asthénie? Ça veut dire sans force, exactement. L'asthénie, c'est sans force. Mais c'est de là d'où vient aussi maladie. Asthénéia. En état de faiblesse avancée. Et c'est aussi le même mot qui est utilisé par Paul quand il rapporte ce que le Seigneur lui dit dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » J'irai même plus loin, dans la maladie, dans le fait d'être en épuisement total. La puissance de Dieu s'accomplit alors que nous sommes faibles. Je vais dire quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. En fait, Dieu n'a pas de problème avec tes faiblesses, Il a surtout des problèmes avec tes forces. Parce que c'est là où tu n'as pas besoin de lui. Alors sollicitons sa grâce. Là où je suis essoufflé, l'esprit souffle. Littéralement, l'esprit gémit. Il exprime ce que nous ne pouvons dire, où les mots d'expression nous manquent. Et David le dira dans le psaume 51 de repentance, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Psaume 51, 13. Et c'est un cri du cœur, un aveu et une conscience de la nécessité du Saint-Esprit. Cet esprit qui l'a oint de sagesse, de force et qui l'inspire. Cet esprit qui fait en lui une œuvre de sanctification. Parce que l'esprit est saint et il nous conduit à l'être. Soyons conscients de son œuvre et de son action en nous. Parce que l'esprit est vie et il nous conduit dans des chemins d'affermissement, de restauration, de guérison et de dépendance au Seigneur. Il nous aide à retrouver de la constance et nous avertit dans sa bonté et dans sa fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur intervienne encore dans nos vies, dans nos cœurs, par l'action et la puissance du Saint-Esprit. On prie ? Seigneur, je te remercie pour ta présence. Seigneur, nous voyons cette histoire de David qui nous interpelle. Il y a un engrenage qui s'est passé dans sa vie. Mais cet engrenage, à un moment donné, s'est stoppé. A été visité par ta grâce, ton amour et ta restauration. Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu ne te repens pas de tes dons et de ton appel. Et Seigneur, je te prie de nous visiter encore, puissamment, par ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie de nous venir en aide dans les combats que nous menons, Seigneur. Je te prie pour toutes les personnes au milieu de nous qui sont découragées par des combats où ils n'ont pas vu tout de suite la victoire. Et Seigneur, je te prie pour un puissant encouragement dans les cœurs et dans les vies ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous tiens. C'est toi qui es le fondement de nos vies. Et je te prie de venir renouveler nos forces là où nous sommes sans force. De venir nous redonner le feu, Seigneur, le feu du Saint-Esprit, cette passion pour toi, renouvelée dans l'espérance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie que là où mes frères et sœurs ont besoin de guérison, ils puissent la recevoir ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui guérit encore les corps. Et Seigneur, nous te prions encore de le faire. C'est ton ministère à toi. Et merci parce que tu guéris aussi les cœurs. Merci Seigneur parce que tu es celui qui met un baume sur nos cœurs et qui vient donner la paix à nos âmes. Seigneur, j'ai à cœur de te prier pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, qui sont dans le dur du combat et qui ont envie d'abandonner, Seigneur. Viens soutenir, viens porter. Merci parce que ta parole nous rappelle que c'est toi qui marches devant nous et qui combat pour nous. Alors je te prie, Seigneur, de venir nous bénir, de bénir cette église de réveil de Martigny, source de vie. Et c'est toi notre source de vie, dans le nom de Jésus. Amen.